Chapitre 1. La Chenard et Walker resplendissaient sous ce beau soleil de juin 40. Et ce, d'autant plus qu'elle était entourée d'une nuée d'engins poussiéreux et bruyants qui la précédaient ou la suivaient et parfois la doublaient sur une autre file. Tout ce convoi se traînait sur une nationale devenue trop étroite, ponctuée de quelques arbres maigrichons et grisâtres, une nationale déchiquetée de temps en temps par les rafales forcenées et rageuses des Stukas, et d'une manière permanente par celle tout aussi violente d'un soleil de saison. Oh, « C'est vraiment la lie du parc automobile français !» fit remarquer Bruno Delors, le plus jeune et au demeurant le plus snob des quatre personnages assis à l'arrière de la voiture. « Naturellement, tous les gens convenables sont partis depuis 8 jours, » déclara Diane Lessing, qui était-elle la plus âgée, la plus riche et d'ailleurs la plus autoritaire. Cette flânerie dans la débâcle lui paraissait aussi coupable qu'un retard à l'ouverture de Bayreuth et sa voix en devenait aussi sévère. « Une bonne semaine, ouais, » appuya Loïc Lhermitte, attaché depuis 30 ans au Quai d'Orsay et qui intervenait à ce titre. Il n'apportait qu'un point de vue tactique sur leur fuite de la capitale. Là comme partout dans ses jugements, n'importe quel critère lui semblait préférable à celui de la morale. « Tout cela est ma faute, » gémit la quatrième personne. Luce Adair, qui avait 27 ans, un mari richissime et absent, et de ce fait, Bruno Delors pour amant depuis 2 ans. Elle venait d'être opérée d'une appendicite, déjà incongrue à 27 ans et plus encore en juin 40. Une appendicite qui avait retardé son départ de Paris, ainsi que celui de ses amis et de son amant. Diane Lessing, elle, avait attendu l'arrivée dans son biplan d'un vieil ami, un lord anglais, lequel sans doute mobilisé en cours de route n'était jamais arrivé. De même, Loïc Lhermitte, supposé partir dans une voiture d'amis et qui avait dû à l'ultime seconde y renoncer, un parent plus proche ou un personnage plus important ayant pris sa place. Tous deux, Loïc et Diane, dans un Paris sans train, sans voiture et sans moyen de locomotion, avaient vu leur affection pour Luce s'accroître au point de guetter sa convalescence et de ne monter qu'au dernier moment dans sa superbe Chenard et Walker, en même temps que son amant. C'est à la suite de tous ces aléas qu'il roulait, actuellement vers Lisbonne, où les attendait son mari, et pour les récompenser de leur dévouement, une couchette chacun sur le navire frété par Adair pour New York. « Mais non, ce n'est pas votre faute, mon chou !» s'écria Diane. « Ne vous déchirez pas avec des remords stupides, Luce, vous n'y pouviez rien !» ajouta-t-elle avec un petit sourire méritoire. « De toute façon, Luce, je vous l'ai déjà dit, j'étais à pied sans vous !» renchérit Loïc Lhermitte. Il avait depuis longtemps reconnu l'intérêt de ses aveux misérables, qui sur le coup lui valaient d'être félicité pour sa dérision et son esprit, et plus tard, si besoin était, lui vaudrait de l'être pour son honnêteté. Sa phrase fit ricaner Diane et Bruno, qui oubliaient parfois que Loïc, n'ayant pas d'argent, était de temps en temps traité par la société qu'il fréquentait comme quantité négligeable. Au demeurant, Loïc aimait beaucoup Luce Adair et aurait fait bien des choses pour elle, y compris rester dans son appartement confortable à regarder défiler des régiments allemands qu'autrement il craignait fort. « Voyons, Luce !» s'écria Bruno perfide. « Voyons !» Vous savez bien quand même, ce n'est pas uniquement pour vos beaux yeux que Diane a refusé l'avion de Percy Westminster, vous le savez. Et je la comprends d'ailleurs, je trouve ces petits avions privés horriblement dangereux. Bruno Delors était le fils d'une bonne famille récemment ruinée. Aussi, lorsque rodé et attaché à toutes les conventions du snobisme jusqu'à l'envoûtement, dépourvu des moyens de les suivre matériellement, il s'était proclamé gigolo avec l'agressivité et la conviction de qui cherche la revanche, personne n'avait osé lui dire que ce n'était pas là un métier dont il pût se prévaloir. C'était pourquoi il traitait mal les femmes dont il tirait sa subsistance, comme si, en les pillant avec plus ou moins de succès, il ne faisait que se rembourser de ce que la société avait volé à sa famille. Depuis 2 ans qu'il vivait avec et de Luce Adair, il avait perdu de son entrain. L'innocence de Luce, son ignorance absolue de l'argent et de l'orgueil, l'empêchait d'être aussi brutal avec elle qu'il avait aimé l'être avec d'autres. Il lui en voulait naturellement, mais comment s'en prendre à quelqu'un qui ne sait pas qu'il possède ? Comment voler à qui donne tout ? Faute de rapport de force, il se montrait à présent de mauvaise humeur ou simplement désagréable. ce qui étonnait chez ce garçon qui n'avait été jusque-là qu'arriviste, gai et méchant. C'était ainsi qu'imprudemment il se permettait avec Diane des insolences que Luce eût tolérées, mais pas la célèbre Madame Lessing. Vous voulez dire que j'ai attendu Luce par peur de l'avion ? Avouez que ça aurait été un calcul idiot, avec ses Stukas qui mitraillent du matin au soir. Oh, je ne prétends rien du tout, ma chère Diane, dit Bruno en levant les mains. Dieu m'en garde ! Je n'ai jamais rien prétendu à votre sujet. Et puis il ajouta, j'espère que vous le regrettez. Il cligna de l'œil vers Luce. Le malheureux, pensa Loïc. Diane souriait aimablement, les yeux lointains. Sur ce plan, mon cher Bruno, ce n'est pas Dieu qui vous en gardera, c'est moi. D'abord, je n'ai plus l'âge de ces distractions, et en plus, j'ai toujours préféré les hommes maigres. Elle riait. Bruno se mit à rire avec elle. J'avoue que je n'avais jamais espéré vous séduire, Diane, même si vous étiez partie prenante. Mais vous avez tort, pensez-y. Dans 10 ans, par exemple, j'aurai toujours le même âge, moi. Dans les 70 ans, au pire. Or vous, vous en aurez 40, non? Et je ne sais même pas si vous serez assez jeune pour moi, mon petit Bruno, à 40 ans. On vieillit beaucoup plus à votre âge et à votre poste qu'au mien. Croyez-le. Et d'un air de compassion, elle ajouta, c'est très épuisant, vous savez, de devoir plaire si longtemps. Il y eut un silence. Bruno était devenu rouge, et Luce, qui ne comprenait pas ou feignait de ne pas comprendre, une fois de plus par lâcheté ou ennui, Loïc ne savait pas encore quelle était la bonne hypothèse, Luce se mit à japper comme un jeune chiot que l'on dérange. « Mais enfin, que se passe-t-il ? Je ne vous suis pas, qu'est-ce qu'il y a ?»« Il ne se passe rien, » dit Loïc. « Vous m'excuserez, je vais marcher un peu, j'ai besoin de bouger. » Il descendit de la Chenard et Walker, et prit le bord de la route. Il fallait arrêter tout cela, ces rires mesquins et ces bêtises agressives, pensait-il. Quitte à mourir mitraillé, autant mourir poliment. Déjà que tout craquait en France, si le vernis en faisait autant, ils étaient fichus. Loïc éprouva soudain quelque orgueil à se dire que ce vernis si superficiel et si vain, si souvent assimilé au snobisme ou à l'hypocrisie, si souvent ridiculisé, ce vernis donc, lui permettrait de mourir avec autant de pudeur et de courage que leur héroïsme à d'autres hommes de meilleure qualité dans de plus valables circonstances. Cela dit, ce petit Bruno ne l'avait pas volé. Diane était facilement féroce dans ces cas-là. Et Loïc, en souriant, dut s'avouer que lui-même en aurait fait autant. Après des années de vie parisienne, un bon mot était devenu pour lui le pouvoir suprême. Le passeport irrésistible qui transgressait toutes les lois, y compris celle de la bonté, et même celle de la décence, qui éclipsait aussi celle de l'ambition personnelle. Loïc l'ermite était l'un de ces hommes prêts à briser leur carrière pour un bon mot. Un de ces hommes déjà rares et devenus à présent introuvables depuis que les affaires, au pluriel, étaient pour la majorité devenues leur affaire au singulier. Et maintenant, en Europe, comme en Amérique. Un enfant lui marcha sur les pieds et trébucha sur lui avant de s'écrouler sur l'herbe en hurlant. Sa mère, de la voiture où elle transpirait au soleil, lui jeta un regard haineux et Loïc fit demi-tour. Décidément, mieux valait se réfugier dans ce petit cocon luxueux et méchant que traîner sur cette route bourgeoise et morale. La somptueuse limousine avait provoqué, dès la sortie de Paris et sur de nombreux kilomètres, les lazzi des fuyards, qu'ils doublaient à petite allure et qui les redoublaient à leur tour au gré des fils. Petit à petit, la chaleur, les stukas, les embouteillages, le désarroi, la terreur avaient éteint l'ironie ambiante. Surtout lorsque la lenteur du convoi et l'accumulation progressive des véhicules, plus ces haltes obligatoires, avaient fini par imposer à tous les mêmes voisins devant et derrière. Dans le cas de la Chenard et Walker, c'était, devant eux, une voiture où s'entassait une famille nombreuse et hurlante, et derrière, un minuscule engin où se tenait, sans se dire un mot, un couple très âgé et très haineux. Il ouvrit la portière. Bruno faisait toujours la tête dans son coin. Et Luce et Diane pépiaient.